Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi politique. La dernière réforme du quinquennat de François Hollande est-elle la réforme de trop? Y aura-t-il une majorité pour voter la future loi travail à la veille des premières manifestations contre la loi El Khomri? Nous recevons cette semaine une de ses opposantes à cette loi, socialiste et députée, Aurélie Filippetti. Bonsoir.
Bonsoir.
Ancienne ministre de la Culture, devenue frondeuse, vous aviez refusé de prêter allégeance à Manuel Valls lors de la plus grave crise gouvernementale de ce quinquennat. On s'en souvient, c'était en août 2014, crise à gauche aujourd'hui, mais aussi crise des migrants au menu de cette émission. La France et François Hollande sont-ils à la hauteur? Pour vous interroger, Aurélie Filippetti, à mes côtés, Benoît Laporte de France 24, bonsoir.
Bonjour.
Et Lilian Alemania de Libération, bonsoir.
Bonsoir.
Mais avant de parler de la future loi travail, Aurélie Filippetti, nous sommes le 8 mars, c'est la journée annuelle consacrée aux droits des femmes. Dans l'hebdomadaire Elle de cette semaine, François Hollande a donné une interview, il se dit socialiste et féministe. Est-ce que c'est un autoportrait que vous partagez? Est-ce que vous trouvez que François Hollande est féministe et socialiste?
En tout cas, à mon sens, on ne peut être que féministe quand on est socialiste.
Alors c'est ce qu'il dit, mais
ça
lui,
va ensemble.
L'est-il?
Oh, écoutez, il a fait un gouvernement paritaire pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, ce qui est une excellente chose. Il y a eu un certain nombre d'avancées depuis 2012, notamment la parité dans les conseils départementaux, des avancées sur le remboursement de l'IVG et de la contraception, notamment pour les mineurs, avec une gratuité totale, une prise en charge totale de la contraception et de l'IVG. Donc, on peut lui mettre à son crédit un certain nombre d'avancées concernant les droits des femmes.
Alors, la veille de cette journée des droits des femmes, une polémique a éclaté. C'est la décoration du prince héritier d'Arabie Saoudite. C'était vendredi à l'Élysée. Ça s'est passé un petit peu en catimini. Décoration, en tout cas, justifiée hier par Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères. On l'écoute.
Nous discutons avec ce pays de la paix en Syrie. Et la paix en Syrie, l'Arabie Saoudite a un rôle à jouer.
Donc ça méritait une Légion d'honneur.
C'est une tradition diplomatique. C'est une tradition diplomatique. Je discute qu'avec ceux qui partagent à 100% notre conception de la démocratie et nos valeurs, non. Je discute, c'est comme si on avait dit on va pas discuter avec l'Iran pour avoir un accord.
Il est pas question de discussion, mais d'une décoration, Jean-Marc.
Oui, mais bon, il y a parfois des traditions diplomatiques qui peuvent étonner. Il faut le prendre comme tel.
Voilà, Jean-Marc Ayrault sur France Inter.
Vous avez remarqué le lapsus.
Oui, c'est un lapsus révélateur, tout à fait.
Une tradition démocratique pour l'Arabie Saoudite, voilà. Droits des femmes, pas évident en Arabie Saoudite, les droits des hommes d'ailleurs non plus, les droits de l'homme en général.
Les droits de l'homme et les droits de la femme en particulier, effectivement, sont totalement bafoués tous les jours en Arabie Saoudite, que ce soit avec les exécutions nombreuses, plus de 130 l'année dernière, que ce soit avec la place des femmes dans la société, donc...
Ça vous choque, donc, cette décoration?
Vous savez, quand j'étais ministre de la Culture, j'ai eu le plus grand mal, j'ai eu une immense difficulté à pouvoir remettre la Légion d'honneur à Bob Dylan. Parce qu'à l'époque, on m'a dit que Bob Dylan avait été le chantre de l'antimilitarisme et qu'il avait visiblement été un consommateur de stupéfiants, en tout cas dans sa jeunesse. Et comme la Légion d'honneur, notamment pour les étrangers, doit être validée par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, ça avait été extrêmement compliqué pour moi de pouvoir lui octroyer cette Légion d'honneur. Je vois qu'on est beaucoup moins regardant avec des dignitaires venus de pays pourtant non démocratiques qu'avec d'immenses artistes comme Bob Dylan.
Mais elle est remise quand même un peu en catimini. Donc on admet qu'il y a un peu de dévoiement de la Légion d'honneur en soi, à la distribuer comme ça juste pour faire plaisir.
Bah, en tout cas, c'est vrai que le fait que ce soit fait comme ça un peu en cachette montre qu'il y a un certain malaise au plus haut niveau de l'État concernant cette Légion d'honneur. On voit que c'est pas fait vraiment à visage découvert, donc ça veut dire quelque chose.
Alors pour revenir à la question plus précise des droits des femmes, Aurélie Filippetti, le fait que le secrétariat d'État aux droits des femmes à l'occasion du dernier remaniement ait été supprimé pour mettre le portefeuille dans un ministère plus large, ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes, est-ce que c'est une régression selon vous?
La régression, ça avait été d'appeler ça ministère de la famille, de l'enfance, des droits des femmes. Et c'est vrai qu'il y avait, il y a eu une telle levée de bouclier que finalement le président de la République s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait faite. Et le signifiant est très important dans l'intitulé d'un ministère comme ça. Autant que la place dans la hiérarchie protocolaire. Donc c'est important que ce soit un ministère de plein exercice, avec Laurence Rossignol, qui est une bonne ministre convaincue, qui est elle-même extrêmement militante de cette cause depuis longtemps. Et c'est important que dans l'intitulé, avec les familles, eh bien, on voit qu'on n'a pas une conception conservatrice, traditionnaliste de la famille, mais au contraire que on est ouvert à des, eh bien, des évolutions progressistes de la notion même de famille. Aujourd'hui, il y a des familles homoparentales, il y a beaucoup de familles monoparentales, dont 85% d'ailleurs sont des femmes, hein, qui s'occupent seules de leurs enfants. Il y a toutes sortes de familles, des familles recomposées. Et donc c'est ça aujourd'hui, faire une politique publique en direction des familles, c'est pas seulement s'occuper de la famille traditionnelle, mais bien d'élargir cette conception et d'ouvrir la société.
Et l'égalité réelle, tout d'un coup un secrétariat d'État comme ça qui vient s'insérer là-dedans, ça a du sens?
Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est,
nous
ça
plus,
semble être
c'est
une coquille vide.
Le PS a fait des conventions sur l'égalité réelle.
Oui, mais c'était la même chose. C'était un concept assez flou, en tout cas. Et pour un ministère, c'est encore plus grave. Parce qu'à la limite, dans une convention, vous pouvez discuter. Mais un ministère, si vous n'avez pas une administration derrière, un intitulé précis qui recoupe des fonctionnaires.
Justement, sur l'intitulé, sur le ministère, d'avoir accolé les droits des femmes à la famille et l'enfance, pour vous, c'était une erreur? François Hollande n'a pas vu? Ça faisait un côté... On remet les femmes dans...
Si on regarde, de toute réagit. Façon, même dans l'attribution des postes, on voit bien que, malgré ce que je disais sur... finalement, je donne un satisfait site numérique, sur la parité numérique, mais si on regarde ensuite dans la distribution des postes, les grands ministères régaliens, c'est tous des hommes aujourd'hui.
Depuis le départ de Christiane Taubira, effectivement, il n'y a plus de ministres femmes.
Déjà, auparavant, c'était... Il y avait... une énorme majorité d'hommes, et dans un conseil des ministres, une fois que vous avez le président de la République, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères qui parle systématiquement à chaque fois, pour ajouter le ministre de l'économie, le ministre des finances, maintenant le ministre, le garde des Sceaux, le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, on voit bien que tous ces grands ministères régaliens sont tenus par des hommes. Donc la répartition de la parole même au sein du conseil des ministres, elle est quasiment à 90% masculine.
Des fois, il arrive que des conseils des ministres soient essentiellement masculins, c'est ça?
Dans la répartition de la parole, et quasiment systématiquement. Ce qui est évidemment un signe et un problème, parce qu'on voit bien que aujourd'hui, la situation des femmes, elle est problématique à deux niveaux. La précarité, parce que la précarité, elle touche davantage les femmes que les hommes, notamment pour celles qui se retrouvent dans des situations à devoir gérer des familles monoparentales, parce que les femmes sont souvent victimes de temps partiel, et donc avec des salaires moindres, des revenus moindres, plus tard des retraites beaucoup plus petites. Donc ça, c'est, je dirais, en bas de l'échelle des revenus. Et puis, à l'inverse, plus on monte dans les responsabilités, plus on se heurte à un plafond de verre. Il y a de moins en moins de femmes qui, finalement, franchissent les étapes pour accéder aux responsabilités. Vous prenez les rédactions, par exemple, dans les journaux ou dans l'audiovisuel, eh bien, vous avez beaucoup de journalistes femmes, mais finalement, si vous prenez les directeurs de la rédaction, etc.
Notre PDG est une femme.
Mais votre PDGère est une femme. Et bon, quand j'étais au ministère de la Culture, j'avais mis en place une politique là aussi assez volontariste de nomination de femmes à la tête des différentes institutions culturelles et de la communication, parce que sinon, on n'y arrive pas.
Vous parlez de ce qui se passe dans les entreprises de presse. On va parler aussi de ce qui se passe en politique. Est-ce que vous diriez que il y a plus de machisme en politique qu'ailleurs?
Ah oui, incontestablement. Je pense qu'il y a un seuil de tolérance à des propos machistes, sexistes et à une vision réductrice de la femme en politique qui serait inacceptable quasiment partout ailleurs dans la société, excepté peut-être dans des vestiaires d'équipes de foot.
Mais ça tient à quoi? Parce qu'il y a plus d'hommes, tout simplement, en politique?
Parce qu'il y a toujours... jusqu'à présent, eu beaucoup plus d'hommes, que c'était un monde d'hommes et un monde d'hommes de pouvoir. Donc, habitués à finalement se sentir un peu au-dessus des lois qu'ils faisaient eux-mêmes. et donc des gens qui sont habitués finalement à ce qu'on leur obéisse et qui ont pris l'habitude de considérer effectivement les femmes comme quantité négligeable.
Dans vos souvenirs, le comportement le plus sexiste que vous ayez eu à subir ?
Non, je ne vais pas faire de concours, remettre de médailles, même des médailles jaune citron. Donc, mais il y a eu beaucoup de choses. Mais ça va des remarques déplacées à l'Assemblée quand une ministre prend la parole. Ça, on a tous ce souvenir en tête. À des manières de s'adresser différemment aux femmes dans les réunions, de moins leur passer la parole, de moins les écouter, jusqu'à des rumeurs qu'on propage sur vous pour essayer de vous discréditer.
La parité, ça ne fait pas évoluer les mentalités.
Il n'y a que ça qui peut faire évoluer les mentalités. C'est pour ça qu'il faut être très volontariste. Parce que c'est seulement dans des enceintes où vous avez, disons, une grosse proportion de femmes, que finalement ces comportements cessent.
Et ça, souvent, la meilleure solution, c'est d'inscrire la proportionnelle. Or, les socialistes ne l'ont pas fait. Est-ce que vous allez porter, y compris...
Ça peut être la proportionnelle, mais ça peut être aussi des mécanismes très volontaristes pour désigner des femmes, y compris dans des scrutins uninominaux, mais dans des bonnes circonscriptions. Jusqu'à présent, on mettait les femmes dans des circonscriptions très difficiles ou ingagnables. Donc c'est après, on disait, ah oui, mais les femmes ne peuvent pas se faire élire au scrutin uninominal. C'est pas vrai.
Mais on voit que le groupe Les Républicains ça préfère payer des amendes plutôt que de respecter les engagements légaux en termes de parité.
Il faut à ce moment-là sanctionner encore plus durement financièrement, supprimer certains financements publics par exemple. Et puis, là encore, il y a des études qui ont été faites qui sont très intéressantes sur notamment en Inde par exemple, une grande démocratie, où on voit que dans les circonscriptions qui sont réservées femmes, puisqu'en Inde il y a des circonscriptions réservées femmes, eh bien si vous faites des études, vous passez des discours politiques, le même discours, lu par un comédien ou une comédienne. Eh bien, ce discours, il reçoit beaucoup moins d'adhésion de la part des auditeurs quand il est lu par un homme, en général. Or, dans les circonscriptions où il y a eu une femme députée, parce qu'elles ont été réservées femmes, eh bien, on se rend compte que les auditeurs qui écoutent ce discours, ils ont le même niveau d'adhésion à ce discours qu'il soit lu par un homme ou par une femme. Une fois qu'ils ont une femme élue, en fait, ils s'habituent et ils sont convaincus par cette expérience. Donc, il faut être volontariste.
Mais vous n'avez pas échappé que François Hollande ait choisi une femme, Myriam El Khomri, pour porter le dossier le plus lourd du moment où on prend que des coups. Donc les femmes ne sont pas épargnées aussi parce que la politique est dure.
Non, mais il ne lui a pas fait un cadeau. Et en l'occurrence, c'est surtout le contenu de la loi qui lui fait porter, qui est absolument inacceptable. Et donc, c'est pas la question de la taille des épaules de Myriam El Khomri. C'est plutôt, effectivement, la charge qu'on a mis dans sa hotte. Une charge qui est insupportable et qui serait insupportable pour n'importe quel ministre socialiste, n'importe quel ministre de gauche.
Alors, excellente transition de Benoît Laporte de France 24, puisqu'on en arrive effectivement au gros dossier de l'actualité politique et sociale du moment. C'est donc la future loi El Khomri, la future loi travail, réforme du code du travail. Première manifestation demain dans toute la France. Il y en aura d'autres qui se sont annoncées, alors que Manuel Valls hier a entamé de nouvelles consultations avec les syndicats et avec les organisations patronales. Première manif demain, Aurélie Filippetti, est-ce que vous serez dans les défilés ?
Bah écoutez, moi j'y serai, je soutiens les défilés qui auront lieu partout en France. Je pense que c'est important que ce soit un succès. Pourquoi ? Parce que cette loi, dans son principe, est inacceptable et dans sa méthode, elle est scandaleuse. Donc aujourd'hui, le gouvernement fait machine arrière en nous disant on va réécrire le texte, mais au fond, on nous parle d'amenuisement, d'amélioration, de changement à la marge. On ne nous parle pas d'une remise en question de la philosophie même du texte, ce sur quoi ça repose. Or, c'est bien là que le bât blesse finalement.
Qu'est-ce qui vous gêne dans cette réforme ?
Je dirais quasiment tout. Tout me gêne. Le principe sur lequel il repose, c'est-à-dire considérer que finalement, si il y a du chômage en France, c'est de la faute des protections des salariés. Ce qui est absolument... c'est une erreur. Il y a du chômage parce qu'on est incapable de faire repartir la croissance. Donc là, on est en train d'essayer de faire reposer sur les épaules des salariés une faute ou une série d'erreurs qui sont des erreurs de politique économique du gouvernement et du gouvernement et des gouvernements précédents. Et ça, c'est très grave.
La logique du gouvernement, c'est pour pouvoir embaucher, il ne faut pas avoir peur de, il faut savoir comment on va licencier derrière.
Mais pour pouvoir embaucher, il faut surtout avoir un carnet de commandes. Il faut surtout avoir des débouchés pour faciliter l'embauche. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un vous allez pouvoir licencier le salarié que vous embauchez. Si vous avez les carnets de commandes bien remplis, si par ailleurs vous avez des salariés qui sont correctement formés, ce qui est le cas en France, on a quand même un niveau de formation générale qui est satisfaisant. Bon, à ce moment-là, les employeurs aujourd'hui ont des outils à leur disposition pour éventuellement mettre fin à un contrat de travail, que ce soit par un licenciement économique ou non, ou par une rupture conventionnelle qui existe maintenant depuis 8 ans.
C'est ce qu'on lit en ce moment, qu'on entend des témoignages de chefs d'entreprise qui expliquent qu'ils ont effectivement un carnet de commandes, que ça repart, mais ils ont cette crainte d'embaucher quelqu'un. Ils préfèrent donner des heures supplémentaires à leurs salariés qui sont là, plutôt que d'embaucher quelqu'un à cause de la difficulté ensuite à s'en séparer si ça va moins bien. Est-ce que ça... Vous l'entendez, ce discours-là ?
Mais surtout venant des PME, d'ailleurs.
Alors, moi, j'entends bien les inquiétudes dans les PME. Ce que je dis simplement, c'est que il ne faut rien toucher au code ou au droit du travail. Mais il faut respecter ce qui constitue
juste une clarification,
un socle de protection
là,
pour les salariés.
Sur le projet Loël Khomri, vous oui. dites rejet total ou réécriture ?
À vous entendre, c'est du retrait, hein.
Non, mais moi, je pense qu'il faut réécrire totalement le texte. Donc, retrait, réécriture. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut bouger, on peut changer des choses sur le droit du travail. Mais, en l'occurrence, il faut partir vraiment sur de nouvelles bases. Donc, retrait, réécriture, ou bien réécriture complète. Voilà. Le gouvernement veut qu'il y ait un texte sur le droit du travail, soit. Donc, qu'il le fasse avec les partenaires sociaux et avec sa majorité. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Aujourd'hui, que dit le texte? Il nous dit, L'autre point d'achoppement majeur, c'est quand même de ramener au niveau de l'accord d'entreprise qui aujourd'hui est au niveau des accords de branche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on va organiser de la concurrence entre des entreprises d'un même secteur sur le territoire français. Jusqu'à présent, on connaissait la concurrence entre des entreprises en France et des entreprises à l'étranger. Maintenant, on va avoir une concurrence où, voilà, certains employeurs vont dire à leurs salariés, ah ben, finalement, on va faire du dumping social, vous allez accepter, si vous acceptez de travailler plus longtemps, pour moins cher, et avec davantage de flexibilité, eh bien, nous aurons tel ou tel marché plutôt que l'entreprise du département d'à côté, par exemple. Donc, on va organiser de la concurrence en France, entre différentes entreprises françaises.
Cette concurrence, elle existe déjà dans une société capitaliste.
Ben non, justement, dans le but des accords de branche. Et ça, c'est quand même des acquis de 200 dernières années. C'est-à-dire quand même le progrès social se construit comme cela. C'est qu'on essaye d'organiser des négociations entre les salariés et les employeurs par l'intermédiaire des représentants des salariés qui sont les syndicats, des représentants des employeurs. Ça s'appelle le dialogue social. Et c'est même l'un des piliers de la social-démocratie. Et il me semblait que François Hollande, en 2012, dans sa campagne, avait dit qu'il voulait s'inspirer justement des grands principes de la social-démocratie, qu'il voulait renforcer le dialogue social.
Mais
on est en train de faire tout le contraire.
Le projet de loi le propose, mais au niveau des entreprises, au niveau des branches.
Mais oui, mais ça n'existe pas, parce que vous allez avoir des petites entreprises où il n'y aura pas de syndicats installés.
Les moins de 50 salariés, c'est ça le problème.
Qui du coup vont se retrouver, où les salariés vont se retrouver vraiment pieds et poings liés, sans syndicats organisés pour les représenter. Et où, du coup, ça sera vraiment la loi de la jungle. Donc, moi, je suis d'accord pour dire qu'il faut faire attention et, bien entendu, avoir un écosystème particulier pour les PME, pour encourager les PME en France, mais pas au détriment des salariés. On ne peut pas avoir deux types de protection des salariés selon qu'ils sont dans une grosse entreprise ou dans une petite entreprise.
Merci Aurélie Filippetti, c'est la fin de la première partie de Mardi Politique. On va marquer une courte pause, le temps des informations, et on se retrouve juste après.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
C'est la seconde partie de Mardi Politique avec Aurélie Filippetti, la première ministre de la culture du quinquennat Hollande, aujourd'hui députée socialiste, toujours à mes côtés dans ce studio pour vous interroger, Benoît Laporte de France 24 et Lilian Alemania de Libération. Alors nous allons continuer de parler de cette loi travail. On va écouter d'ailleurs la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Hier soir, elle était reçue au bureau national du Parti Socialiste. L'heure, désormais, on l'entend partout dans la bouche du gouvernement, l'heure est au dialogue constructif.
C'est un débat certes long, mais constructif. La grande majorité a envie d'avancer en apportant des améliorations à ce texte. Il y a eu beaucoup de propositions ce soir. Pas seulement sur le compte personnel d'activité, mais beaucoup aussi sur le compte personnel d'activité. Et donc, nous allons continuer à travailler dans cet esprit constructif.
Voilà, Myriam El Khomri, dans un esprit constructif, a été au micro de Valérie Gasse. Aurélie Filippetti, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il fallait une réécriture totale de cette loi travail. Il n'y a rien qui vous va dedans, aujourd'hui ?
Écoutez, il y a quelques avancées, mais vraiment, les points durs sont bien plus important que les quelques maigres avancées. On nous parle toujours du compte personnel d'activité, voilà. Mais encore une fois, le plafonnement des indemnités prud'homales pour des licenciements abusifs, ça c'est inacceptable parce que c'est une remise en cause de la légitimité même du juge, de l'intervention du juge en matière de droit du travail. Donc soit on nous dit le juge n'a plus à avoir sa place dans les conflits du travail. Soit on laisse le juge évaluer, quand il y a encore une fois un licenciement abusif, l'intégralité du préjudice, puisque une réparation en droit, c'est une réparation de l'intégralité du préjudice et c'est au juge de l'évaluer. C'est le premier point. J'ai parlé tout à l'heure des accords d'entreprise qui devraient maintenant prévaloir sur les accords de branche, ce qui est à mon sens le point sans doute le plus scandaleux de la loi, parce que véritablement là on se retrouve à favoriser la loi de la jungle au détriment de la démocratie sociale. Le troisième point que je citerai, c'est la définition du licenciement économique, le fameux article 30 bis
qui a été rajouté un petit peu à la dernière minute.
Oui, enfin, en tout cas, il y a une définition du licenciement économique qui est donc là aussi très restrictive et qui permet à des multinationales qui sont dans une situation florissante à l'étranger, mais qui, on l'imagine, peuvent organiser des situations déficitaires dans certaines de leurs filiales françaises, qui leur permet de licencier des salariés en France au motif de licenciement économique, même si ça va bien à l'étranger. Ça s'appelle tout simplement un permis de délocaliser. Et je ne comprends même pas comment cette idée a pu germer dans l'esprit d'un gouvernement de gauche. C'est tout le contraire de ce que l'on doit faire, à savoir protéger, défendre, valoriser emplois industriels sur le sol français.
Selon vous, c'est la loi El Khomri, c'est la loi du MEDEF ?
Oui, c'est la loi du MEDEF, c'est la loi du libéralisme dérégulé. Et en plus, c'est une loi qui n'aura aucun effet sur la croissance et aucun effet à court terme sur la reprise de l'activité économique ni sur la lutte contre le chômage. C'est ça, en plus, qui est vraiment terrible. On sait très bien que cette loi n'aura pas d'effet, même si elle était votée en l'état. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment on relance l'activité économique, comment on relance la croissance en France.
Alors,
pour moi, ça passe par un plan d'investissement, ça passe par un soutien à la relance, ça passe par un soutien au pouvoir d'achat, et ça ne passe pas par ces mesures de dérégulation.
Mais faites-vous au moins confiance aujourd'hui à Manuel Valls quand il dit qu'il est prêt à améliorer ce texte, notamment sur certains des points que vous souleviez, sur les indemnités de licenciement et sur les conditions de licenciement. Est-ce que aujourd'hui, vous et ces députés socialistes particulièrement critiques sur la politique économique du gouvernement, vous dites on peut quand même faire confiance à Manuel Valls dans cette négociation.
Ou est-ce qu'il ne perd pas son temps en venant vous voir tout à l'heure au groupe socialiste ?
D'abord, on ne perd jamais son temps à discuter, mais il aurait fallu le faire d'abord. C'est difficile de tirer d'abord, discuter ensuite. Bon, mais maintenant, on verra et on jugera aussi le texte qu'ils élaboreront et qu'ils présenteront à la fin du mois. Comprenez simplement la colère et l'inquiétude de tous ceux qui vont aller manifester demain dans la rue. Parce que là, on touche quand même directement les conditions de vie et de travail de millions de Français. Donc, on touche, encore une fois, chacun dans sa famille, chacun en France aujourd'hui, a autour de lui quelqu'un qui a été victime d'un licenciement.
Après, le texte, il va arriver au Conseil des ministres, mais il n'est pas fini. Il va arriver au Parlement. Vous allez pouvoir, en tant que député, l'amender.
On le discutera, on l'amendera, on se battra contre lui s'il ne nous satisfait pas, s'il nous inquiète. Et je suis persuadée que si c'est un texte dans le même état d'esprit que celui-là, la contestation de ce texte, elle ira bien au-delà de ceux qu'on appelle les frondeurs. On a déjà vu sur la déchéance de nationalité qu'il y a 120 députés socialistes qui n'ont pas voté la déchéance, entre ceux qui ont voté contre et ceux qui se sont abstenus. 120, c'est beaucoup. Je pense qu'avec la loi travail, en l'état, ça irait encore plus.
Cette loi travail, selon vous, au-delà des parlementaires, est-ce que c'est l'étincelle qui réveille un peu le peuple de gauche, qui est un peu à tonne depuis 4 ans?
Le peuple des gauches, il était assommé, estomaqué par la déception. Donc là, il est rongé par la colère. Et c'est pas de gaieté de cœur qu'on descend dans la rue contre un gouvernement pour lequel on a voté. Parce que le million de personnes qui ont signé la pétition contre la loi travail, ce sont des électeurs de François Hollande en 2012. Ce ne sont pas des gens de droite. Pour une immense majorité d'entre eux, ils ont voté pour François Hollande. Donc se dire que ces gens-là, aujourd'hui, pétitionnent et vont manifester contre le gouvernement pour lequel ils ont voté, ça, c'est terrible. Parce que des grandes manifestations contre la droite, on en a fait beaucoup. Un certain nombre d'entre nous, on en a fait vraiment beaucoup.
Après, il y a eu des manifestations contre des gouvernements de gauche. Contre Claude Allègre, contre Lionel Jospin.
Et c'est jamais de gaieté de cœur. Et en tout cas, là, ça a pris une dimension finalement rassemble un peu le mécontentement qui s'exprime depuis des mois vis-à-vis de la politique économique qui est menée.
Mais est-ce que politiquement, vous ne prenez pas un risque assez considérable en, d'une certaine façon, jouant contre votre camp à 14 mois des élections essentielles?
Mais qui joue contre son camp? C'est ça la question que j'aimerais poser. Est-ce que c'est nous, parce que on estime que ce texte, avant lui la déchéance, sont contraires à nos principes, à nos valeurs, à nos idées, à nos convictions? Ou bien est-ce que c'est le gouvernement qui établit des projets de loi sur des bases qui sont contraires à ce pourquoi ils ont été élus il y a à peine 4 ans?
Vous regrettez-vous d'avoir voté François Hollande en 2012?
Non, mais non, il faut pas regretter, non. Mais je regrette le tour qu'a pris la politique, depuis maintenant plusieurs années.
Et donc, est-ce que vous souhaitez que l'an prochain François Hollande, de nouveau, soit candidat?
Moi, je souhaite qu'il y ait un processus de primaire pour désigner le candidat des gauches à la prochaine élection présidentielle, parce que je pense qu'il y a vraiment un risque très important aujourd'hui que la gauche ne soit pas qualifiée au second tour, avec le Front National au niveau qu'on connaît, avec le processus des primaires à droite qui va avoir lieu cet automne et qui va dynamiser la campagne de la droite. Donc le risque, il est très sérieux. Et le seul moyen, à mon sens, d'en sortir, c'est justement d'organiser des primaires à gauche, comme on l'a fait en 2011, comme c'est inscrit dans les statuts du Parti Socialiste d'ailleurs, pour désigner le meilleur ou la meilleure pour représenter la gauche à l'élection présidentielle.
Ou relégitimer François Hollande.
Ou relégitimer François Hollande s'il souhaite être candidat.
Alors ce serait
pourquoi
un jeu
pas.
De dupes, mais vu de
écoutez,
votre côté.
C'est, nous, on n'est pas d'accord avec la politique qu'il mène, donc on sera un certain nombre à ne pas soutenir s'il se présente. Mais si, ma foi, il obtient une majorité au sein de ses primaires, eh bien, ça voudra dire qu'il y a encore une gauche qui est prête à voter pour lui. Donc très bien, soit. Et à ce moment-là, on l'acceptera, bien sûr. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je souhaite. C'est la procédure que je souhaite. Mais je pense qu'en l'état actuel, on ne peut pas rester comme ça. La fracture, elle est trop profonde au sein de la gauche. Et on a besoin de ce processus des primaires pour se projeter de nouveau dans un avenir et dans un espoir.
Mais qui pour incarner l'alternance à François Hollande?
Ah ben, on n'en est pas là pour l'instant, on en est à se battre sur le processus lui-même, parce que c'est loin d'être gagné. Vous voyez bien qu'on se heurte là encore, malgré les pétitions, les appels, les mobilisations.
Bah, la porte a été ouverte par même Cambadélis lui-même, non?
Ah, vous il avez a une... entre-ouvert une porte,
vous avez
mais
un conseil national sur le sujet,
voilà,
début avril.
Donc on verra à ce moment-là comment les choses se dessinent et ce qui se prépare. Mais pour le moment, on n'a pas été accueillis à bras ouverts.
Vous ne lui faites pas confiance, là, Cambadélis, sur ce coup-là, on a l'impression.
Bah, on verra bien. Moi, j'attends pour voir, mais il faut être vigilant. En tout cas, c'est vraiment une chance pour la gauche de pouvoir justement revendiquer la paternité en plus de ce processus des primaires qui nous a été maintenant repris par la droite et qui permettrait un débat démocratique entre les différentes gauches, puisqu'on nous dit, Manuel Valls a dit, les deux gauches sont irréconciliables, ou quelque chose comme ça. Bon, bah, il faut qu'il y ait un débat à ce moment-là pour trancher.
Il y a des positions à gauche qui sont irréconciliables.
Voilà, la phrase exacte. Donc, il faudra bien qu'il y ait un débat à un moment donné, dans la perspective de 2017, pour savoir qui est le plus légitime pour incarner quelle gauche aussi, quel projet.
Vous partagez cette analyse de Manuel Valls sur ces positions irréconciliables à gauche?
Écoutez, moi, pour moi, la gauche, c'est une sorte de famille avec différentes sensibilités, mais un socle commun. Et on se reconnaît quand on est de gauche. Et c'est pour ça que je suis totalement désorientée, comme beaucoup d'électeurs, par la politique qui est menée actuellement. Bah, parce qu'on n'y reconnaît rien.
Aujourd'hui, vous pouvez dire Manuel Valls, il est de gauche, François Hollande, il est de gauche.
La politique qu'il mène, en tout cas aujourd'hui, pour moi, n'est pas de gauche.
Alors on parle de ce processus des primaires hein, qui d'une certaine manière permet de contourner les partis politiques. La pétition qui a recueilli plus d'un million de signatures, presque 1 200 000 signatures ce soir. Est-ce que ça aussi c'est le signe finalement d'une nouvelle pratique, de nouvelles pratiques politiques et démocratiques? Est-ce que ça signe la fin des partis ou est-ce que c'est juste un épiphénomène lié à cette loi travail?
Ah, je pense que c'est un phénomène beaucoup plus puissant que juste un phénomène ponctuel lié à la loi travail. C'est des nouvelles formes de mobilisation qui se passent par les réseaux sociaux, mais pas seulement. Ce ne sont pas des formes virtuelles. C'est comme ça que les gens se rencontrent et s'agrègent, mais ensuite, bah, ils descendent dans la rue, ou bien ils organisent des réunions, ou bien ils communiquent et ils échangent entre eux sur les sites internet. Donc, c'est une mise en relation très efficace et très rapide. Et oui, c'est une arme de politisation massive. Donc, je suis très heureuse de voir comment ça fonctionne, comment ça a germé et comment cette pétition a fait florès comme ça sur les réseaux. Ça permet aussi accessoirement de montrer que la contestation vis-à-vis de cette loi, elle est tout sauf archaïque, elle est tout sauf conservatrice. Il y a beaucoup de jeunes qui contestent cette loi. Il y a des étudiants qui sont inquiets, il y a des jeunes salariés. Bon, il y a tout, il y a toutes les générations et tout le monde se retrouve à travers cette pétition qui a su toucher quelque chose.
Ça ne remplace pas la manifestation dans la rue.
Ça ne remplace pas la manifestation.
C'est pas une pétition en ligne.
C'est pas simplement un clic. Ce n'est évidemment pas un simple clic qui change la vie politique d'un pays, mais on voit bien 1 200 000 personnes. Et on voit bien derrière ce qu'il y a dans de discussions, dans les entreprises, sur les lieux de travail, dans les cercles d'amis ou cercles familiaux, on voit bien que ce million et quelques de clics, il représente une vraie force politique derrière. Que c'est pas quelque chose de virtuel. Et donc, oui, ça, c'est intéressant et c'est nouveau.
Et ça voudrait dire que, comme Juppé en 95, Valls doit en tirer les conséquences et retirer, et peut-être se retirer.
Non, enfin, ça, je n'en tire pas ces conclusions aujourd'hui. Il faudra voir effectivement quelles conséquences ils vont tirer dans la réécriture de la loi, dans l'écriture de nouveaux textes. On verra demain le succès, la mobilisation et les manifestations. Donc, on verra dans les jours qui viennent comment tout ça évolue.
Mais sans parler de l'avenir immédiat de Manuel Valls, est-ce que sa méthode, la ligne qu'il a su imposer au cours de ce quinquennat, est-ce que pour vous, Manuel Valls, c'est aujourd'hui le problème de la gauche?
Vous savez, la ligne politique, de politique économique, elle est fixée par François Hollande. Et c'est François Hollande, c'est le président de la République qui définit la politique économique depuis le début du quinquennat.
Certes. Et il soutient donc, Valls jusqu'à présent.
Il soutient Valls, il l'a conservé comme Premier ministre. Donc moi, je n'opposerai pas le Premier ministre et le président de la République sur cette question de la politique économique ou sur la question de la loi travail. Je pense qu'ils sont totalement en accord et on ne peut pas dédouaner l'un aux dépens de l'autre ou vice-versa.
Donc, Manuel Valls et François Hollande sont un problème pour la gauche ? Je repose ma question.
C'est leur politique qui est, à mon sens, un problème, pas seulement pour la gauche, mais pour le pays. Parce que ça ne marche pas. Si ça marchait, on serait très heureux d'avoir tort. Mais malheureusement, le chômage a augmenté de 700 000 personnes depuis le début du quinquennat. Donc c'est catastrophique. La croissance française n'a pas repris, contrairement à ce qui s'est passé dans la plupart des pays européens, ou contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis. Et ça, on ne peut pas dire que ce soit la faute du droit du travail. Le droit du travail, il existe en France depuis très longtemps. Donc les protections des salariés, c'est pas ça qui empêche la croissance de repartir. On a saupoudré, par exemple, 41 milliards d'euros d'aides aux entreprises depuis 4 ans, avec le CICE, le pacte de responsabilité, etc. Ça a été quasiment pure perte. On a arrosé le sable, le désert. Et ça n'a pas produit d'effet sur l'emploi ni d'effet sur la croissance. Donc, ce qui sous-tend cette politique économique-là ne fonctionne pas.
Et vous pensez que politiquement, une primaire peut régler cette déchirure à gauche ?
En tout cas, je pense que c'est l'un des moyens pour pouvoir remobiliser la gauche qui aujourd'hui est vraiment déchirée et fracturée et assez désespérée.
Aurélie Filippetti est l'invitée de Mardi Politique. On va parler maintenant du dossier des réfugiés. Après la réunion d'hier à Bruxelles entre l'Union européenne et la Turquie, c'est un peu le retour des migrants en Turquie. Un message assez explicite envoyé aux Syriens. Restez hors de l'Europe. Écoutez ce que disait François Hollande, c'était la nuit dernière, donc au sujet de cet accord qui doit encore être finalisé dans 10 jours.
C'est pour dire à ces Syriens qui sont dans le désarroi, ne vous jetez pas dans des embarcations que des passeurs vous présentent et qui sont un risque pour votre propre vie. Ne perdez pas votre argent avec des malfrats qui vous exploitent, mais faites-vous plutôt enregistrer en Turquie comme réfugié et vous rentrerez dans une procédure régulière.
Comment vous l'entendez, vous, Aurélie Filippetti, ce message de François Hollande et au-delà du chef de l'État français, le message de l'Europe hier soir ?
Pour moi, l'Europe a failli sur la question des migrants. Et c'est une tragédie. Parce que c'est une tragédie humaine, avant tout. Ces gens fuient des pays en guerre. Il faut bien voir que plus de 53% des migrants viennent de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. Donc des pays en guerre. Où ils fuient les terroristes, les islamistes, dans des conditions catastrophiques. Bon. C'est une tragédie aussi pour l'Europe elle-même, parce que on voit bien que l'Europe est incapable d'affronter sereinement une situation où pourtant ses valeurs devraient l'aider à regarder, et ses valeurs et sa richesse, et la richesse de la zone économique européenne devraient l'aider à affronter ce défi-là, accueillir.
Mais est-ce qu'on partage les mêmes valeurs à Paris et à Budapest aujourd'hui ?
On est dans l'Union européenne, ensemble. Donc ça veut dire quand même qu'on doit partager les mêmes valeurs. Sinon, c'est la faillite de l'Europe. Sinon, ça veut dire que l'Europe n'existe plus.
Il y a beaucoup de gouvernements d'Europe de l'Est, y compris sociaux-démocrates, qui ne respectent pas les valeurs de l'Union européenne aujourd'hui.
Et donc, là, il y a une crise et une tragédie de l'Europe, face à elle-même. Donc, les accords de Schengen, les accords de Dublin, etc., tout ça est en train de voler totalement en éclat, les égoïsmes nationaux prennent le pas sur la solidarité vis-à-vis des migrants, mais aussi intra-européenne. La politique d'Angela Merkel, qui a été courageuse sur ce dossier.
Mais qui l'est moins aujourd'hui.
Qui est
en train de renvoyer tout ça aux Turcs.
Elle a aujourd'hui la pression aussi, non seulement de son opinion publique, mais enfin aussi de ses partenaires européens, pression très forte. Donc aujourd'hui, le seul sujet sur lequel finalement la France a élevé la voix un peu pour contredire l'Allemagne au cours des derniers mois, c'est pas sur la politique d'austérité, imposée par l'Allemagne à la Grèce, par exemple, ou au reste de l'Europe, c'est sur la politique migratoire.
Donc ça, c'est bien Manuel Valls, c'est pas François Hollande, on est d'accord.
Oui, je suis d'accord. Mais on peut quand même le regretter. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc exfiltrer, externaliser en Turquie notre propre incapacité à gérer le problème migratoire. Je ne vois pas comment la Turquie pourrait gérer un problème que l'Union européenne est incapable, elle, de gérer. Donc, ça veut dire, finalement, qu'on fait, on se lave les mains du drame humain de ces personnes et de ces réfugiés. Et vous savez, je suis allée à l'OFPRA, il se trouve, il y a quelques jours, pour visiter cet organisme qui accueille et qui instruit des demandes et des demandeurs d'asile. Et ce sont des milliers de tragédies individuelles, de gens qui fuient la violence, la guerre, et qui ne veulent pas venir en Europe pour tirer un quelconque profit de notre système social, simplement pour trouver un asile, un refuge. Et ils espèrent évidemment rentrer dans leur pays.
Mais vous avez remarqué,
c'est à nous d'organiser cela.
Ils ne sont pas tellement attirés par la France, curieusement.
Mais on devrait en être triste,
vous en avez
vous
une explication? C'est peut-être le chômage, c'est peut-être le...
C'est vrai que la France est dans une situation économique qui est peu enviable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chômage, donc ils savent qu'ils auront les pires difficultés à trouver du travail en France. Et en plus, malheureusement, il faut bien le dire, hein, la France, qui était le pays des droits de l'homme, aujourd'hui a perdu cet honneur. Et aujourd'hui est vécu comme un pays qui cherche à se débarrasser de ses responsabilités vis-à-vis des réfugiés.
Vous le regrettez?
Moi, je le regrette, je le déplore.
Vous souhaitez qu'on accueille en France plus de 30 000 réfugiés, c'est le quota sur lequel s'est engagé François Hollande. Vous souhaitez qu'on en accueille plus?
Je pense qu'on devrait, au sein de l'Union européenne, avoir une répartition des réfugiés qui viennent de ces pays en guerre, et qu'on devrait être un peu plus... généreux, c'est pas le terme, c'est plus juste, tout simplement. C'est pas de la générosité ou de la charité, vous savez, c'est simplement le droit international. L'asile, c'est un droit. Et si nous-mêmes, nous étions des ressortissants de ces pays en guerre, eh bien, on serait heureux de pouvoir trouver refuge. Ça s'est produit à certaines périodes de l'histoire, pas si anciennes quand même, en Europe, au sein de l'Europe.
Mardi politique.
C'est la dernière séquence de Mardi Politique, Aurélie Filippetti. Quelques questions courtes et des réponses plutôt courtes, s'il vous plaît. Vous venez d'être nommée présidente du Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier. Est-ce que c'est compatible avec l'exercice à temps plein d'un mandat de députée?
D'abord, c'est une fonction bénévole, hein. Vous l'avez dit, c'est la présidence d'un conseil d'administration. Je l'avais déjà fait dans mon premier mandat de député, donc ça ne me prendra pas de temps sur mon mandat parlementaire. En revanche, ça me permettra aussi, de, à la fois dans un domaine, la culture, que je connais bien, d'aborder des questions comme celle des migrants, par exemple, en Méditerranée, et à travers le prisme artistique et cinématographique.
Lilian Alemania.
Quelle loi aimeriez-vous voir voter dans l'année qui vient pour vous dire, ah, on aura au moins réussi ça dans ce quinquennat?
Ah bah écoutez, on est en train d'en discuter une en ce moment même à l'Assemblée, sur la protection des sources des journalistes. Ça vous concerne, c'était une loi qu'on avait écrite avec Christiane Taubira quand nous étions tous les deux au gouvernement, et qui passe maintenant sous forme de proposition de loi. Donc j'en serais heureuse si elle était adoptée en l'état.
Ce qui va l'être.
Normalement.
Benoît Laporte.
Question personnelle. À la maison, franchement, vous arrivez à acheter français?
J'essaye, en tout cas. En tout cas, pour ce qui est, par exemple, de la viande. je fais très attention à manger de la viande française. Parce que les agriculteurs ont une situation suffisamment difficile pour qu'on ait au moins cette attention vis-à-vis d'eux.
Merci, Aurélie Filippetti. C'est la fin de Mardi Politique. Cette émission a été réalisée par Mathias Golchani, avec le concours d'Audrey Iatoni à la programmation. Très bonne soirée à tous. La semaine prochaine, nous recevrons Jean-François Copé. Malala.